Voilà 4 ans que la guerre en Ukraine a débuté, Isabelle Duché.
Le 24 février 2022, l'armée russe envahissait l'Ukraine. Le nombre de victimes civiles et militaires est estimé pour les deux pays à 2 millions de victimes. C'est un chiffre donné par le Centre d'études internationales et stratégiques. Nous nous intéressons ce matin à cette population qui vit durement ces 4 années de guerre en Ukraine. Nous sommes pour cela avec le père Bogdan Velianik, ukrainien d'origine et curé de la basilique Saint-Cernin. Bonjour père.
Bonjour.
Début janvier, la mission de surveillance des droits de l'homme de l'ONU en Ukraine a publié ce chiffre de 15 000 civils ukrainiens tués et 40 600 blessés, des chiffres qui sont officiels mais qui sont difficiles aussi à vérifier. Père Bogdan Velianik, est-ce que vous êtes, vous, régulièrement en lien avec votre famille puis avec des amis restés en Ukraine? Que vous disent-ils de la situation actuelle?
Que peuvent-ils dire à part que c'est catastrophique? Je pense que tout est diminué. Victimes directes, hein, les victimes qui sont décédées, mais combien de victimes aussi qui souffrent de perte de membres, qui sont restés handicapés pour la vie ou bien traumatisés. Tout cela, hélas, c'est l'héritage terrible de la guerre.
Est-ce que vous avez des nouvelles régulière de votre, notamment vous avez votre maman qui est en Ukraine et puis d'autres personnes, qu'est-ce qu'ils peuvent vous dire ou ne pas vous dire justement?
Eh bien, ma maman effectivement est en Ukraine. Après, j'ai perdu aussi beaucoup des amis qui étaient camarades de classe, qui sont partis au front et qui malheureusement, plusieurs d'entre eux ne sont pas revenus en laissant leur famille sans protection. C'est aussi parfois un peu le silence radio, puisque malheureusement, les communications peuvent être écoutées et les populations civiles sont invitées surtout à ne pas donner des détails suite au bombardement. Quand j'appelle ma maman, elle me dit « tout va bien, voilà, il y avait des explosions, c'est tout ». Mais je sais que la réalité peut être parfois plus poignante et plus terrible, mais heureusement, c'est aussi... la conséquence de la guerre, il faut se méfier de tout, y compris des communications qui peuvent donner plus de renseignements à l'ennemi pour savoir d'ajuster leur tir.
Oui, et c'est effectivement difficile, donc on sent bien cette prudence hein, de la population ukrainienne. Est-ce qu'elle est dans une attitude de résilience?
Entièrement.
Entièrement.
Ce qui surprend beaucoup quand vous parlez avec les gens. D'ailleurs, peut-être... quelque chose que je devrais souligner, plusieurs Ukrainiens qui sont venus ici au début de la guerre, souvent juste les femmes et les enfants, puisque les maris sont restés pour défendre leur pays, plusieurs d'entre eux sont revenus en Ukraine. Malgré le fait qu'il y a toujours la guerre, malgré le fait qu'ils vivent sous les bombes, mais c'était pour eux important de regagner leur terre natale. Les Ukrainiens, ils sont attachés viscéralement à leur terre, à leur culture. Donc, la situation et ce qui se passe aujourd'hui, la résilience du peuple est impressionnante. Même quand vous parlez avec des gens qui ont vécu des terribles choses, qui sont confrontés, par exemple, dans les hôpitaux, aux soins des malades qui viennent du front, et ce n'est pas joli du tout, vous imaginez bien. Ils arrivent à plaisanter, ils disent que même ces soldats qui sont blessés continuent d'avoir de l'humour, de parler, en quelque sorte, de les encourager, les médecins eux-mêmes. Oui, c'est étonnant, cette force du peuple. Mais je pense que dans la situation telle qu'elle est aujourd'hui, ils savent qu'ils n'ont pas d'autre solution. Ce n'est pas l'armée allemande qui arrive à envahir la France, mais qui garde un peu de culture, un peu de résidus de l'humanité en eux, même si les choses qui étaient faites ici étaient terribles. Mais la mentalité russe, elle fonctionne avec l'extermination. Donc l'Ukraine était déjà envahie une fois.
Ils savent en 2014.
Pas uniquement en 2014, mais... c'était surtout les armées bolcheviques qui ont envahi le pays complètement au début des années 20-30. Oui. Et les Ukrainiens savent le tribut qu'ils doivent payer. Donc aujourd'hui, ils ont juste un choix. Mourir en combattant ou mourir en se rendant, parce qu'ils ne survivront pas. L'occupation sera pire que la guerre. Ce seront comme ce que l'Ukraine a connu dans les années 30, les famines, les exterminations, les déportations. Bref, l'exécution sommaire est programmée. Voilà pourquoi cette résilience, elle n'est pas seulement étonnante, elle est aussi compréhensible.
Est-ce que, outre cet attachement à la patrie qui est viscérale, on l'entend bien, est-ce que cette résilience, elle vient aussi de l'histoire, vous l'avez dit, mais est-ce qu'elle n'a pas aussi une autre racine, peut-être dans l'âme du peuple ukrainien?
Ils sont profondément croyants. Et c'est vrai que si les soldats sont au front, les civils prient beaucoup. Ça, ma mère ne cesse de me dire que les messes sont presque en continu, les prières d'intercession, les gens se rassemblent parfois dans les maisons, parfois dans les monastères, peu importe les bombes, peu importe les bombardements, ce qui compte, c'est de se tourner vers le seul qui peut le sauver. Et on se rend bien compte qu'à part le Seigneur, personne ne viendra en aide.
Oui, c'est justement ce qu'a dit le primat de l'église gréco-catholique ukrainienne, Monseigneur Sviatoslav Shevchuk. Il a affirmé que l'Ukraine tient et combat aujourd'hui parce qu'elle prie.
C'est certainement vrai. Et toutes les prières de la diaspora qui est partout dans le monde, en tant que croyants, nous ne pouvons pas ne pas croire en la force de la prière.
Oui, oui, bien sûr. Alors, il y a le pape Léon XIV, un dimanche, lors de son allocution après l'Angélus, qui a évoqué la guerre en Ukraine. Pour le Saint-Père, la paix ne peut être reportée. C'est une nécessité urgente qui doit trouver sa place dans les cœurs et se traduire par des décisions responsables. À votre avis, quelles pourraient être les ouvertures possibles pour que cette paix se fasse, Père Bogdan?
La conversion des Russes, disons comme ça, c'est la seule que je vois.
Alors, qu'est-ce qu'il faut pour que les Russes se convertissent?
Ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas. Je pensais au début que Poutine et sa clique étaient les seuls responsables de tout ce qui se passe. Mais j'avais les illusions en me disant le peuple russe, quand il apprendra, il va se réveiller, il va manifester, il va en quelque sorte faire que le terreur de Poutine s'arrête. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, on ne peut plus parler comme dans les temps de l'Union soviétique que j'ai vécu, d'ailleurs dans ma jeunesse, où l'information ne circulait pas. Nous vivons dans un monde qui est rempli de l'information. Aujourd'hui, pour les Russes, ne pas savoir, ou plutôt ne pas vouloir savoir, est un choix délibéré, parce qu'ils ont accès aussi bien aux médias, aussi bien à Internet, malgré les bridages, bien sûr, et malgré les contrôles des FSB qui existent, c'est tout à fait possible d'avoir cette information. En plus, les frontières ne sont pas fermées, ils voyagent, ils voient aussi une autre réalité. Aujourd'hui, c'est coupable, cette volonté de fermer les yeux. C'est pour ça que, pour leur conversion, il faut accepter la vérité en face, il faut se dire qu'on est de mauvais côté de l'histoire. Puisque si l'histoire parfois permet aux méchants de survivre quelque temps, heureusement dans la foi chrétienne nous disons que la justice sera faite. Et je pense que tout ce que les Ukrainiens prient et tout ce qu'ils demandent, c'est que la justice soit faite. Mmh. Je peux vous dire de témoignage personnel que pour moi c'est un combat de tous les jours de me lever et de ne pas maudire les Russes. Et de prier pour que le Seigneur plutôt leur ouvre les yeux. Après, la justice du Seigneur fera son œuvre, ça, j'en doute pas.
Mmh. Justice du Seigneur et justice des hommes, puisqu'il y a quand même un certain nombre de pourparlers qui ont lieu à l'initiative des États-Unis, notamment avec des échecs, des reprises et discussions. Comment vous voyez ça, vous?
Soyons honnêtes, les discussions de paix sont nécessaires parce que tout le monde sait que personne ne peut tenir éternellement. Mais ces pourparlers qui se déroulent actuellement sont concentrés plutôt à l'Ukraine pour lui demander de capituler et de rendre aux Russes tout ce qu'ils désirent. Alors, ce qu'ils n'arrivent pas à faire avec les armes, ils essayent d'obtenir avec ces pourparlers. Est-ce vraiment des pourparlers? Est-ce vraiment des compromis? Ça, c'est une grande question, mais je pense que chacun a sa réponse.
Oui, bien sûr, oui. Sur l'espérance du peuple ukrainien, parce que c'est vrai que l'année 2025 a été la plus meurtrière, hein, selon Action contre la violence armée, cette ONG évoque un bond de 26% des victimes civiles dues à des frappes plus ciblées sur les grandes villes ukrainiennes. Donc on voit bien que non seulement les soldats sont touchés, mais aussi toute la population. Quelle est donc cette espérance du peuple ukrainien?
L'espérance, c'est presque l'énergie du désespoir, vous savez, espérer contre toute espérance. Qu'est-ce que vous pouvez attendre quand les soldats en face sont capables de faire du terreur, parce que ce n'est plus une guerre. On ne combat pas les soldats. Ils s'attaquent aux civils, ils s'attaquent aux hôpitaux, ils utilisent les tortures sur les prisonniers, ils violent les femmes, ils violent les enfants. Ça, c'est pas la guerre. C'est juste
la
barbarie et le manque cruel de tout ce qui est humain. Les Ukrainiens espèrent parce qu'ils savent ce qui les attend si jamais ils renoncent. Les territoires qui seront perdus, ils seront envahis et toute la jeunesse enroulée dans l'armée russe. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Tout ce que a amené la Russie dans les territoires occupés actuellement, c'est enrôler les hommes dans l'armée russe pour être le chair à canon et l'envoyer au front contre leurs frères ukrainiens, embrigader tous les enfants dans les classes où on leur apprend à tirer, où on leur apprend à haïr l'Ukraine et bien sûr glorifier le régime russe. Tout cela, ça attend toute l'Ukraine. Et pour l'Europe, il serait bon de nous réveiller, de comprendre ce qui se trame et de se dire que si l'Ukraine tombait, ce ne sera pas uniquement le problème et la catastrophe pour l'Ukraine. Que pensez-vous que fera Poutine de tous les hommes qui sont restés encore valides? Il fera ce que l'Union soviétique a fait, tout ce que tous les conquérants ont fait. On les enroulera de force dans l'armée et on les enverra d'autres fronts. Et les pays baltes, les pays nordiques, la Pologne, qui ont subi durant des siècles la répression russe et les attaques, les agressions de ce pays, savent ce qui les attend. Voilà pourquoi c'est peut-être le seul soutien aujourd'hui et le seul qui comprenne réellement le danger de tout ce qui se trame.
Oui, bien sûr. Vous avez évoqué, Père Bogdan Velianik, les enfants. Certains enfants ont été... un certain nombre d'enfants sont orphelins. D'autres enfants ont disparu et sont arrivés en Russie. D'autres enfants restent en Ukraine et vaille que vaille poursuivent l'école. Dans quelles circonstances cette vie se fait-elle?
Alors, précision, les enfants n'ont pas disparu, ils étaient arrachés à leur famille de force. C'était organisé par les Russes pour peupler les populations russes et surtout les territoires, parce qu'ils ont tant de territoires où il manque des hommes. Ce serait bien qu'ils apprennent d'abord à vivre entre eux et avec eux. Quant à ceux qui sont restés, le quotidien est terrible. Je crois que l'Ukraine peut être le seul pays au monde où les enfants apprennent à vivre sous terre, parce que c'est le seul endroit qui est calme et qui peut donner la possibilité d'apprendre. Mais comme disait dans son édito que je vous ai fait transférer le père Michel Romaniuk, curé ukrainien à Lourdes, il disait que cet apprentissage, cette volonté d'aller à l'école, y compris dans des conditions terribles, y compris quand il n'y a pas d'électricité, y compris à la bougie, y compris sous terre, c'est aussi un signe qu'on croit en avenir, que l'avenir est possible. Et l'apprentissage des enfants le montre encore plus de manière criante, poignante. Il donne peut-être aussi des forces à tous ceux qui défendent ce pays de savoir pourquoi ils se battent.
Oui. En tout cas, c'est un exemple pour nous, Français, qui nous plaignons facilement de nos petites contrariétés, de voir ce peuple ukrainien debout, solide, résilient, comme vous l'avez dit, Père Bogdan Velianik. Je vous remercie de nous avoir accordé cet entretien en ce malheureux, triste anniversaire, 5e anniversaire de la guerre en Ukraine. Je rappelle que vous êtes le curé de la basilique Saint-Cernin. Merci.
Merci à vous.